sur le grill d'Écotable.
Je suis Fanny Giansetto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Bonne écoute. Tu as eu en tout cas la sensation que ton métier allait t'apporter le respect que tu cherchais, j'ai l'impression. Est-ce que, alors tu nous as parlé beaucoup d'engagement là, féministe, est-ce que l'engagement écologique, il est aussi né à ce moment-là? Je ne peux pas m'empêcher de penser au chlordécone notamment.
Bien sûr.
Dans les dom-toms.
Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était aussi dangereux. Si, si, il y a eu l'engagement. Alors, c'était pas un engagement écoféministe au sens où on l'entend maintenant, et engagement dans lequel, pour le coup, je me reconnais pleinement depuis longtemps, avant que ça soit à la mode. Mais c'était, et c'est pareil. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi, je recevais une éducation, je savais pas que ça s'appelait féminisme. Et c'est pareil sur l'écologie, sur l'environnement. Je recevais de la part de mon grand-père maternel. Et ma grand-mère, mais surtout mon grand-père, parce qu'il était agriculteur, je recevais une éducation dont je ne savais pas qu'elle était écologiste. Je l'ai compris par la suite. Mais j'habitais donc en partie à la ville et en grande partie à la campagne. Enfin, la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence se sont passées à la campagne, dans une ferme, ce qui ressemble plus en Martinique à une ferme, qui était donc sous la responsabilité de mon grand-père, qui avait toute sa vie été agriculteur, comme on dit, gérard d'habitation là-bas, c'est-à-dire que il était agriculteur, il était à la main d'œuvre, et puis ensuite il a grimpé les échelons, puis ensuite il est venu vivre en région parisienne avec ma grand-mère, et là il a changé de voie parce qu'il est devenu tourneur fraiseur à Boulogne-Billancourt chez Renault. Puis à la retraite, ils sont repartis en Martinique, ils se sont installés à un endroit dans une commune qui s'appelle le Saint-Esprit, et qui est vraiment dans la campagne. C'est un des rares endroits de la Martinique où on voit nulle part la mer, parce qu'on est vraiment dans la campagne. Et là, il a repris son métier d'agriculteur, mais comme un retraité actif. Moi, je suis née bien après, et quand je suis née, mais il y avait cette ferme qui, pour moi, le temps béni de l'enfance, parce que c'était pas très grand, hein. Je crois qu'il y avait moins de 10 hectares, mais ça suffisait pour à la fois planter, exploiter des agrumes, faire de la pisciculture, avoir une ou deux vaches, des cochons, et puis sur la maison en elle-même, autour de la maison dans laquelle on vivait, il y avait de grandes plantations de manguiers, de caféiers, il y avait donc les abricotiers dont je vous parlais tout à l'heure, plein d'autres arbres fruitiers. Enfin, si je pourrais en faire la liste, c'était le jardin d'Éden. On avait aussi des racines, on avait des aromates, on avait des épices, on avait un énorme citronnier, enfin plein de choses comme ça. Et ce qui fait que on était quasiment autosuffisants. En plus, non seulement on était autosuffisants, mais ce qui était produit en plus était vendu sur les marchés. Et nous étions dans cet endroit entourés d'exploitations bananières qui n'étaient pas les nôtres et qui étaient survolées une à deux fois par jour pendant une grande partie de l'année par des avions qui déversaient des pesticides, dont du chlordécone, pas que, mais dont du chlordécone. Et donc ces avions, mon enfance et mon adolescence ont été marqués par ça, quoi. Ces avions, ils passaient, ils déversaient leur cargaison. Nous, comme on était à côté, forcément, on en prenait une part. Sur les toits des maisons, sur les capots des voitures, sur nos arbres fruitiers à nous, sur la peau, sur nos vêtements, sur nos cheveux. On le sentait, hein, je veux dire, il y avait l'odeur, on avait une espèce de pellicule grasse sur la peau, mais personne ne nous a jamais dit que c'était dangereux. Bon, après, moi, j'ai comme tout le monde, j'ai cru en l'industrie agrochimique, j'ai cru ce qu'on me disait, j'ai souvent à ma fille qui a 24 ans, à l'époque, quand elle est née, on nous disait au bout de 3 mois qu'il fallait... commencer à introduire des légumes dans l'alimentation des enfants, etc. Donc comme beaucoup d'autres mamans à l'époque, j'ai arrêté l'allaitement au bout de 3 mois pour donner à ma fille introduire des légumes dans l'alimentation de ma fille. Mais comme justement il y avait à l'époque j'étais en Martinique et il y avait des problèmes de pollution, j'ai acheté des petits pots aux légumes, ce qui aujourd'hui pour moi est une serait une hérésie absolue, mais où j'ai fait chauffer du lait dans des biberons en plastique parce que c'était le dernier cri et qu'on nous expliquait que c'était mieux que les biberons en verre, et aujourd'hui je le regrette profondément. Donc j'ai été bernée de la même façon que beaucoup d'entre nous sur la soi-disant innocuité à la fois de l'agrochimie mais aussi de tout ce qui est perturbateurs endocriniens, et c'est vrai que ça c'est quelque chose, moi j'ai la sensation de l'avoir vraiment vécu dans ma chair. Et donc, ça me rend particulièrement sensible sur le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça compte dans mon engagement et dans ma sensibilité à tous ces sujets-là.